Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, j'ai échangé avec Eddy Michaud, un chirurgien de formation et passionné par l'univers des nouvelles technologies depuis plus de 15 ans. Il a cofondé deux structures, la première est le startup studio Factory 619, un hub pour la tech et l'innovation qui participait à la création de startups innovantes dans les domaines de la e-santé depuis 2017. La deuxième est le Factory 319, une structure dédiée à l'accélération des entreprises innovantes dans le secteur de la santé et des biotechnologies qui s'est implantée à Marseille en 2019. Eddy a également lancé sa propre startup, mêlant les deux domaines qu'il passionne, l'informatique et la santé. Dans cet épisode, Eddy nous explique qu'est-ce qu'un startup studio et quelles sont les clés pour en monter un, comment exporter un concept qui marche, et quelle est l'importance de créer une équipe de choc quand on entreprend dans la santé. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, je suis avec Eddy Michaud, cofondateur du startup studio Factory 619 qui est implanté à Tunis depuis 2017 et la structure Factory 319 qui est depuis 2019 à Marseille. Bonjour Eddy, ça va ?
Bonjour Jean-Baptiste, ça va, super, merci.
Bah super, merci d'avoir accepté cette invitation.
Merci à toi. Merci.
Très content de t'avoir aujourd'hui. Tu es le premier invité qui a lancé un startup studio dans la santé que j'ai sur le podcast. Donc super cool, j'ai pas mal de questions. On va passer donc 45 minutes à revenir sur ton expérience. Toi, comment tu es venu d'un point de vue, comment tu es arrivé d'un point de vue personnel à te lancer dans la santé? Qu'est-ce qui t'a motivé au tout début jusqu'à tout simplement maintenant les challenges que tu rencontres avec Factory 319 et ce que tu fais à Marseille? Ça te va?
Super.
Bah écoute, je vais te laisser te présenter aux auditeurs et puis après on va tout simplement aller de fil en aiguille jusqu'à ton aventure entrepreneuriale dans la santé.
Très bien. Donc Eddy Michaud, effectivement, je suis cofondateur des Factory 319 et 619, qui est un startup studio spécialisé dans le secteur de la santé et des biotechnologies. Basé, comme tu l'as très bien dit, de part et d'autre de la Méditerranée avec une entité qui est à Tunis et une entité à Marseille depuis 2019. Et puis, je suis médecin de formation au départ, donc le lien avec la santé était étouffé déjà.
Ok. Donc, tu peux nous partager quelques expériences. Donc, tu t'es lancé, toi, dans la santé en voulant devenir médecin. Et puis après, tu as fini dans l'entrepreneuriat. Donc, comment, déjà, toi, qu'est-ce qui t'a motivé déjà à faire des études de médecine au tout début?
Alors, là, ça remonte un petit peu loin. Mais c'était vraiment une rencontre avec une personnalité qui était chirurgien spécialiste que j'ai eu l'occasion de voir travailler. Et bon, ça a été vraiment une révélation. Je me souviens encore de ce moment et je me suis dit, voilà, j'avais plusieurs voies entre la musique et puis la médecine et puis c'est vrai que ça a été une révélation. Je me suis dit voilà, c'est le métier que je veux faire, et donc je me suis lancé dans des études de médecine. Et ça a été un petit peu la même chose pour l'entrepreneuriat, puisque dès que j'ai fini les premiers cycles, je me suis retrouvé interne en médecine. J'ai lancé avec une bande de copains un premier projet déjà dans l'IT il y a une vingtaine d'années quoi.
D'accord, ça consistait en quoi un petit peu?
Alors c'était les prémices des sites d'information. On avait lancé un site de vulgarisation médicale qui avait pour vocation voilà d'informer les internautes sur la santé, sur les différentes spécialités, les différentes pathologies. Donc ça a duré quelques temps, pas très longtemps, parce qu'après on a été vite rattrapé par la réalité du métier de médecin. Mais c'était vraiment la première expérience, et je crois que c'est là où j'ai attrapé un peu le virus de
l'entrepreneuriat,
de l'IT, ouais, et de l'entrepreneuriat effectivement. Ouais.
Et donc, du coup, tu peux nous partager, je sais pas, des chiffres. Vous avez réussi à avoir des visiteurs, donc.
Ouais, on avait dit, alors ça remonte il y a quelques années, donc je ne saurais pas te redonner des chiffres précis,
Non,
mais
mais.
c'est vrai que ça correspondait un petit peu au premier site de vulgarisation. Il y a eu ensuite des sites qui ont très bien marché hein, sur ce créneau. Et la démarche, c'était vraiment d'essayer de partager l'information. On partait du principe qu'il y avait un petit peu un déséquilibre entre le médecin qui était le sachant qui avait le savoir et parfois des patients qui étaient un peu qui étaient un petit peu déroutés face à l'information et la manière dont on pouvait délivrer cette information. Et on voulait essayer de travailler un petit peu et de rééquilibrer un petit peu cette information en la rendant plus accessible. Et donc on publiait des articles tous les jours sur une spécialité, une maladie, une pathologie, des réponses. Voilà, donc c'était vraiment les prémices. Et même après, à travers mon activité, j'ai tout de suite noté en quelque sorte le pouvoir d'Internet et le pouvoir d'information que représentait Internet, parce qu'on a très bien vu durant ces dernières années, les patients aussi en termes d'information qui arrivent en consultation avec une vision beaucoup plus précise de ce qu'ils veulent sur les maladies qui sont voilà, il y a toutes les technologies
Ouais,
d'information ont particulièrement bien fonctionné. C'était très intéressant de voir
un gros acteur
cette évolution. Ouais,
avec
exactement, tout à fait.
Doctissimo.
Exact. Ouais, c'était l'ancêtre. J'ai pas voulu
Bon,
le dire, mais c'était un peu
c'est pas grave.
l'ancêtre de Doctissimo, quoi. Voilà.
Ouais, ok.
Exactement.
Super. Et donc, tu as eu cette première aventure entrepreneuriale. Et qu'est-ce que tu en as fait après? Ça t'a donné envie de te lancer? Tu avais un autre projet
Ouais, tout à fait. C'était vraiment le premier contact. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette. Il y a l'adrénaline du lancement d'un projet et de le voir se concrétiser. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui a été un facteur déclenchant. Je pense qu'il y a quelque chose de très créatif dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui ressort peut-être un petit peu aussi quelque chose d'artistique où tu vois une entreprise naître à partir d'une idée qui est
Ouais, une forme de
un petit peu le
liberté
même
aussi.
parcours. Ouais, tout à fait. Il y avait l'aspect de travailler en équipe, parce qu'on était à l'époque quatre internes, et c'est vrai que le fait de se retrouver régulièrement, de voir avancer ce projet, de travailler à pas d'heure, parce qu'il fallait conjuguer un petit peu notre emploi du temps entre notre activité médicale et le lancement de ce projet, tout ça, c'est des éléments qui ont beaucoup compté, je pense, dans mon approche entrepreneuriale. Et puis ensuite, les choses se sont faites assez naturellement. Cette entreprise, on a un petit peu pivoté, on a commencé à développer des services un petit peu dans le digital, parce que c'était un peu les prémices. On faisait des services pour des entreprises du secteur de la santé, avec
Donc là, vous
des choses
aviez une
très, très
entreprise?
basiques, très basiques. Ouais, tout à fait. Ouais. On a créé une entité, et on faisait des choses assez basiques maintenant qui ont l'air complètement anodines, mais comme faire des campagnes d'emailing, développer des sites web qui étaient. Voilà,
Comment
qui était.
t'as appris à faire tout ça, toi?
Alors, je ne l'ai pas fait seul, parce que ça s'est fait en équipe. Moi, je n'ai pas de formation technique.
Bah ouais.
J'ai appris ensuite au cours du temps, évidemment. Alors, je ne suis pas ingénieur, hein, je n'ai pas cette prétention du tout. Mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup, d'abord parce qu'il faut mettre les mains dans le cambouis quand on est une petite équipe. Et j'étais entouré, j'avais la chance d'avoir au début donc des cofondateurs médecins, et puis on a rapidement ouvert un petit peu notre équipe avec deux personnes qui étaient des ingénieurs et qui nous ont permis donc de délivrer les premiers projets sur ça. Mais c'est vraiment la complémentarité de l'équipe qui nous a permis en fait d'évoluer. Et ce qui est très marrant, c'est que depuis ils sont tous partis faire autre chose, et je suis le seul qui est resté un peu au fil des années et qui aujourd'hui continue dans cette direction.
D'accord. Et toi, en tant que médecin, tu as pratiqué?
Oui, 10 ans, j'ai fait, bon, après un cursus hospitalo-universitaire comme tout le monde.
Ouais.
J'ai pratiqué une dizaine d'années en libéral, avec une double vie, si je peux me
Ouais.
permettre, professionnelle, où effectivement j'ai continué donc à pratiquer, et puis j'ai continué à m'investir sur des projets d'entrepreneuriat et sur des projets au départ qui était complètement orienté sur l'IT. J'ai mis un petit peu entre parenthèses le côté santé pendant quelques années, puisque j'ai ensuite dirigé une ESN
Une
qui
ASN,
développait des services,
tu peux nous
une
définir.
entreprise de. Ouais, c'est une entreprise de services numériques.
Ouais.
C'est les anciennes SS2I
Mmh.
qui développaient. Donc, on continuait à faire du développement web mobile et du digital pour des entreprises de tout type sur différents secteurs d'activité. Donc, c'était une cinquantaine de personnes, une cinquantaine de collaborateurs sur des métiers d'ingénierie du digital. Et là, je dois dire que j'ai appris ça pendant 4 ans. J'ai fait ça et j'ai appris énormément au contact des équipes. Et je pense que c'est vraiment là où je suis monté un petit peu en compétences et en vision au contact des équipes. Donc, c'était encore une histoire très humaine, quoi.
Ouais.
C'est comme ça que j'ai appris.
Et toi, donc tu avais ton job dans la journée de médecin,
Ouais.
tu étais dans un cabinet et le soir tu
Ouais.
bossais là-dessus ou tu étais
Voilà.
au
Bon, j'avais
contact
un
des
emploi.
clients?
Non. Ouais, un emploi du temps partagé. Donc, une journée dédiée à la santé et une journée dédiée à l'IT.
Mmh.
Je suis pas le seul. Maintenant, le parcours de médecin et d'entrepreneur, je crois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent, hein. J'ai rencontré pas mal de confrères qui ont eu la même trajectoire. Et donc, au début, évidemment, quand on lance un projet, il faut assurer aussi un petit peu ses arrières. Donc, j'ai continué pendant quelques années, effectivement, à avoir une double activité avec un emploi du temps partagé entre la médecine et l'activité entrepreneuriale. Et puis, il y a un moment où l'activité entrepreneuriale a pris le dessus et j'ai fait le choix de me consacrer. Aujourd'hui, c'est mon cas. Donc, je me consacre complètement à mon activité de cofondateur du Startup
C'est
Studio.
quoi, à ton avis, les éléments en fait qui ont déclenché ça? À quel moment tu t'es dit, bon là, je pense que c'est bon, j'ai envie de me lancer à 100% parce qu'il y a une prise de risque quand même. Pour
Ouais,
toi,
ouais, ouais.
tu juges qu'il y a une prise de risque ou est-ce que au contraire tu dis, bah en fait, j'aurai toujours ce diplôme, je serai toujours médecin. Moi, je sais pas exactement comment ça se passe. Est-ce que si tu arrêtes de pratiquer, tu peux y retourner à un moment? Ou est-ce que tu dois rester en continu dans la profession?
Alors, tu peux retourner, et évidemment, après, il y a comme dans tout, il faut garder rester à flot et un certain entraînement, surtout dans le domaine chirurgical.
Ouais.
Ce qui m'a décidé, c'est pas tant le risque, parce qu'en fait, le risque d'entrepreneur, il est permanent. Il n'y a pas de zone de confort, hein, quand tu entreprends, et même quand tu as l'impression que ton projet est arrivé à un certain niveau de maturité, tout peut s'arrêter très rapidement. Et je pense que l'actualité que l'on a vécue ces derniers mois démontre à quel point les choses
Ouais,
sont fragiles.
complètement.
Mais c'était plus une question je dirais, d'efficacité, de se dire qu'à un moment, tu peux pas forcément faire tout et qu'il faut se concentrer sur une chose et essayer de le faire du mieux possible, ce qui était le cas. Et après, c'est une sensibilité. C'est vrai que l'entrepreneuriat, l'innovation, c'est des choses qui sont. C'est de l'adrénaline, hein. Tu te lèves le
Ouais.
matin et tu as envie de tout donner. C'est pas que la santé n'en est pas, mais du tout. Mais voilà, c'est une question de choix personnel. Mais c'est pas le risque, parce qu'évidemment, le risque,
Il est beaucoup plus
il est
présent.
il est il est permanent, il est
Après, ça
présent.
me peut motiver aussi.
Ouais, tout à fait. Il y a petit côté adrénaline du matin, quoi.
Et donc, quand tu as eu ce déclic-là, tu t'es lancé donc, dans l'entrepreneuriat et concrètement, qu'est-ce que tu faisais?
Alors, bon, c'est pas, il n'y a pas eu une bascule du jour au lendemain. C'est quelque chose qui s'est fait
Donc, tu es resté dans l'IT, quoi.
relativement naturellement, parce que ça fait effectivement 20 ans que je faisais ça. J'ai eu cette expérience très riche aux côtés d'équipes de développement et sur les métiers du digital. Et puis ensuite, on est arrivé. On a travaillé pendant quelques temps au contact de startups, donc c'est à peu près 2013-2014. Et donc on a senti un petit peu cette vague d'innovation arriver avec un format même si je considère que startup reste une entreprise,
Oui.
mais avec un format un petit peu différent, avec des enjeux un peu différents. Ce qui m'a, en fait, ce qui s'est fait relativement naturellement, c'est que j'avais ce bagage scientifique et ce bagage de médical, et qu'on était au contact d'entrepreneurs qui venaient, eux, soit plutôt d'écoles de commerce ou du milieu IT, et qui avaient un petit peu ce besoin de compréhension du métier et de la dimension métier qui leur manquait. Et on est arrivé avec deux autres collaborateurs et qui sont aussi des cofondateurs du Factory, à cette conclusion que on avait quelque chose à apporter, à la fois parce qu'on avait une expérience technologique sur l'IT depuis quelques années, et puis aussi parce qu'on avait une vision métier qui était peut-être intéressante pour ces porteurs de projets, pour ces entrepreneurs, et qu'on avait des choses à leur apporter. Et donc le modèle studio, bah, c'est un modèle qui est intéressant parce qu'on est très impliqué en fait hein, dans le processus d'accompagnement. Donc on est un petit peu des co-entrepreneurs de projets et on peut leur apporter des choses en termes d'expertise, d'expérience et d'approche métier. Donc c'est un modèle qui correspondait vraiment à ce qu'on avait envie de faire. Et je m'y suis retrouvé complètement, à la fois avec mon parcours de médecin et à la fois avec mon parcours entrepreneurial autour de
Ok.
l'IT, quoi.
Et donc là, tu nous parles donc de studio. Concrètement, ça s'est fait comment ce passage donc de l'IT à la santé? Parce que il y a un moment où tu as décidé de te spécialiser plus sur les entreprises dans la santé.
Oui.
Et comment tu t'es lancé, toi, avec donc Factory 619?
Bah, là encore, c'est souvent des rencontres, mais on a été en fait sollicité par des porteurs de projets, des startups qui étaient sur ce secteur de la santé et qui avaient vraiment cette équation, cet équilibre complexe à trouver entre la connaissance métier et le développement de solutions IT. Je pense qu'on n'entreprend pas en fait dans le secteur de la santé et dans le secteur de la santé numérique comme on peut entreprendre dans un autre secteur d'activité. C'est très spécifique, il y a une alchimie un petit peu particulière parce qu'on a des contraintes, que ce soit des contraintes, il y a un trépied entre l'utilisateur, le patient, les structures de soins, et puis l'éditeur de solutions ou la start-up. Donc c'est un équilibre qui est complexe à trouver et il y a un vrai challenge en fait là-dedans. Et c'est vraiment comme ça qu'on a commencé, c'est-à-dire vraiment au contact d'entrepreneurs qui avaient un projet et qui sont venus nous voir en disant voilà, on a une idée ou alors on a un prototype mais on ne sait pas forcément faire ou alors on a besoin d'une dimension d'accompagnement métier, technique. Et c'est comme ça que les premiers projets portés par le Factory, en fait, sont nés. J'ai voulu aussi lancer ma propre start-up parce que c'était très
Ouais,
important pour moi.
c'est logique.
Ouais, c'était fondamental pour moi de passer un peu par tout le circuit que peut connaître un entrepreneur
D'accord.
avec les bons et les mauvais côtés aussi. Et donc j'ai créé une start-up dans le secteur santé évidemment et qui a été un des premiers projets fondateurs du start-up studio et du Factory.
Ok, tu peux nous en dire un peu plus, c'était dans quel domaine, dans la
Bah,
santé,
ouais,
ça
moi,
répondait à quel besoin?
c'est une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle Catomi, où on travaille sur la question de la modélisation d'images appliquées au domaine de la santé, et particulièrement dans le flux de la télémédecine et de la téléconsultation. Donc on a un pied sur, je dirais, l'aspect échange de données, transfert d'informations, mais le cœur véritablement, c'est un cœur technologique qui est autour de la modélisation d'images.
D'accord, donc
Voilà,
ça
donc
reste très IT quand même.
oui, ça reste très IT, non? Ça reste très IT, même si l'innovation aujourd'hui, c'est pas forcément de l'IT, et particulièrement, je pense, dans le domaine de la santé.
Ouais.
L'innovation, ça peut être plein de choses, du service, mais en tout cas, le projet que j'ai lancé était avec une composante IT très forte, mais c'est pas par hasard, parce que j'avais la chance d'avoir une équipe IT autour de moi.
Donc toi, quand tu t'es lancé, tu vivais comment en fait? Parce que donc là, t'avais ces... t'as... donc t'as quitté la médecine, t'as arrêté de
Oui.
pratiquer. Tu te rémunérais sur des prestations de service avec le Factory. et la start-up qui générait déjà des fonds.
Oui, en tant qu'associé, effectivement, avec des revenus. Avec des revenus. Alors, c'est certain que quand on a une double activité, ça donne un petit peu de confort. Je pense qu'il y a plein d'entrepreneurs qui passent par là, qui sécurisent un petit peu leur quotidien, parce que c'est vrai que avant de pouvoir générer des revenus sur une entreprise, il faut quand même un petit peu de temps. Moi, j'ai eu cette chance aussi. C'est ce qui m'a permis, pardon, d'avancer.
Ouais.
Et donc
Là,
de sécuriser des revenus.
tu nous parles du fait d'avoir pratiqué.
Ouais, d'avoir pratiqué, bien sûr.
Ouais.
Ouais. Et puis ensuite, chemin faisant, l'activité d'entrepreneur génère des revenus qui te permet à un moment de basculer et d'être un peu plus serein. Voilà, c'est pas, il faut pas comparer. Faut
Mais
pas,
tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui cherche à se lancer et qui doit donc jongler entre ces deux activités-là?
ben, c'est.
Comment on alloue son temps en fait aux deux?
Ouais. Bah, pour avoir accompagné pas mal de porteurs de projets qui avaient une super idée, qui ont tout donné, je dirais, pendant les premiers temps, c'est vrai qu'il y a un moment d'essoufflement, il y a un moment où, malheureusement, si le projet, dans un cycle relativement court, de 18-24 mois, a du mal un petit peu à générer de revenus, c'est compliqué. Et souvent, et c'est ce que j'ai vu, on a eu évidemment des échecs, on a accompagné des projets qui se sont arrêtés, et souvent, bah, c'est des porteurs de projets qui, à un moment, ou des entrepreneurs, qui, à un moment, bah, n'ont plus les moyens, en quelque sorte,
Ben ouais.
de se consacrer entièrement et qui sont obligés de faire un choix. J'accompagne encore en ce moment une start-up, et c'est marrant de voir, ils ont un équilibre, c'est-à-dire que la journée ils sont sur la start-up et le soir ils ont trouvé des petits boulots à côté pour arriver à subvenir à leurs besoins. C'est vrai que c'est simple, c'est plus simple quand on n'a pas de famille, de choses comme ça, c'est clair, mais c'est une vraie question de savoir comment on peut allouer du temps à un projet, sachant qu'il va pas générer de revenus avant un certain temps, quoi.
Ouais.
Voilà. Mais pour se lancer, il faut sécuriser, parce que sinon, il y a un moment, évidemment, on s'essouffle, le quotidien reprend le dessus,
Ben
et puis
oui,
on
on
tient
peut
pas la
vite
longueur.
vouloir
Ouais.
revenir à la
Ouais,
vie
tout à
d'avant,
fait.
quoi.
Mais oui.
Et toi, donc tu t'es lancé, tu étais en Tunisie ou tu étais en France?
Alors, moi, j'ai une activité vraiment entre les deux, je dirais. Le startup studio, le Factory 619, est né à Tunis, tout simplement parce que l'histoire des projets que j'ai lancés était basée en Tunisie, et en particulier l'entreprise, le SN, qui était basée à Tunis. Donc, on avait une équipe là-bas en Irshore. On travaille pour des entreprises françaises essentiellement.
D'accord.
Et le studio 619 est une espèce de spin-off de l'entreprise. Il y a une partie de l'équipe qui, à un moment, a dit, voilà, nous, on a envie de se lancer là-dedans. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que l'initiative est peut-être venue presque plus de mes collaborateurs et de l'équipe, qui sont venus à un moment en disant, voilà, c'est passionnant ce qu'on est en train de faire avec les startups. On a envie de créer quelque chose, et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Ce qui nous a conduit ensuite, pour poursuivre, on a accompagné, donc, comme je te disais, des projets qui étaient à la fois en France, en Europe, et aussi qui venaient de l'écosystème tunisien.
Ouais.
Et on s'est très rapidement rendu compte que les problématiques étaient très similaires entre les écosystèmes. Et on a eu aussi la chance d'être dans un écosystème très dynamique en Tunisie, qui est un écosystème qui est émergent, qui n'a pas forcément le même niveau de développement, hein, qu'en France. Et très rapidement, les entrepreneurs qu'on a accompagnés, en tout cas sur Tunis, nous ont fait part d'un besoin d'internationaliser leurs solutions, de s'ouvrir sur d'autres écosystèmes. Et ça, c'est un volet qui est un petit peu spécifique aussi à ce qu'on est en train de faire, et au Factory, au-delà du fait qu'on est spécialisé sur une verticale industrielle, c'est qu'on a cette notion d'internationalisation, et donc un pied dans un écosystème en Afrique du Nord, et un pied en Europe. Et c'est extrêmement intéressant de voir les passerelles qu'on arrive à construire entre ces deux écosystèmes. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont nés en Tunisie et qui sont implantés en France et qui se développent en France. On a une start-up qui est maintenant basée en Estonie, qu'on a accompagnée. Donc, c'est très intéressant. Et cette notion de passerelle entre les écosystèmes d'innovation, pour moi, c'est quelque chose de très, très important.
Et pourquoi, du coup, toi, tu avais quoi comme expérience internationale, en fait ? Qu'est-ce qui t'a permis d'aller au-delà des frontières et de sortir, donc je peux comprendre, France et Tunisie, tu nous l'expliquais.
Ouais.
Par exemple, Estonie, même, tu vois, enfin, tu te dis, tu es en compétition, toi, avec des gens qui sont dans des marchés très spécifiques. Rien qu'en France, il y a déjà quand même beaucoup d'acteurs, d'incubateurs. Alors, je sais pas, peut-être pas en 2014 à l'époque, mais maintenant, il y en a quand même une bonne petite liste, quoi.
Ouais. Alors, la structure d'accompagnement du studio, et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de ce format, c'est que c'est très différent d'un incubateur ou d'un accélérateur, puisque on est totalement impliqué, l'équipe, on a une équipe résidente dans le Factory qui est impliquée, je dirais, quasiment au quotidien dans les projets. À la différence d'un incubateur ou d'un accélérateur où il y a une date d'entrée et une date de sortie, nous, on n'a pas de programme avec une date d'entrée. On est ouvert en permanence et on va entrer des projets, faire entrer des projets dans le studio. Donc, le modèle est différent. Il est complémentaire. On intervient relativement tôt dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a évidemment des projets qui arrivent à des phases idéation, des phases qui sont parfois avec un prototype ou un petit peu plus avancé. Donc on est sur un positionnement qui est relativement précoce dans cette chaîne de valeur. Et ensuite, le modèle, c'est un modèle de maturation de projet. Donc on va les accompagner jusqu'à un certain niveau de maturité qui va durer 18-24 mois ou plus si besoin. Et ensuite, les structures d'accompagnement dont tu parlais, des incubateurs ou des accélérateurs,
elles
peuvent
prendre
le relais.
Donc,
c'est absolument pas en opposition par rapport à ce qui existe sur des écosystèmes même très, très développés comme celui que l'on a en France.
Donc, vous positionnez beaucoup plus tôt, en fait.
Voilà, plus tôt et en complémentarité. Et l'approche étant différente, ça permet aussi, comme on disait, ça permet de donner d'autres choses aux entrepreneurs. Moi, on a vraiment la question de l'approche métier. Le secteur de l'innovation dans la santé, c'est très complexe. Il y a un environnement réglementaire, il y a de nombreux acteurs qui sont parties prenantes. Et donc, je pense qu'on leur apporte vraiment quelque chose en phase de maturation de projet jusqu'à un certain stade où après d'autres structures peuvent prendre le relais. C'est ce que d'ailleurs on est en train d'essayer de mettre en place sur Marseille en complémentarité avec les structures déjà existantes.
D'accord.
Donc c'est pas une lutte.
Non. Mais du coup, il y a un travail de sélection qui doit être beaucoup plus rigoureux que pour un incubateur où on a déjà des chiffres, on sait déjà comment la start-up a performé, on a de la donnée sur son passé et sur l'expérience des entrepreneurs. Comment vous vivez là-dessus et ensuite, comment vous sélectionnez donc les projets qui seront donc les futurs les pépites de demain dans la santé.
Ouais. Oui, on l'espère. Alors, le processus de sélection, effectivement, il est très adossé à notre business model parce que ça reste une entreprise. Et donc, on n'est pas financé, on n'a pas de bailleur de fonds, on n'a pas de financement extérieur. On travaille sur de l'autofinancement et donc c'est notre business model qui est partagé en fait entre deux composantes, une composante service où on va facturer comme une entreprise classique pour des besoins très spécifiques sur de l'accompagnement en développement technique, sur des besoins de levée de fonds par exemple, des choses comme ça, donc des choses extrêmement précises où on va intervenir vraiment en qualité de prestataire.
Ouais.
Et
ça,
c'est pas les mêmes
clients, du coup, c'est déjà des startups
entreprises
qui sont déjà avancées.
Exactement, avec un niveau de maturité qui est beaucoup plus avancé. Ce qui nous permet, nous, de réinvestir en quelque sorte et de nous reconcentrer avec nos équipes sur l'accompagnement des projets, où là, on est sur un mode de service versus equity. On va donc prendre une participation dans le projet. Et c'est pas quelque chose, là encore, c'est pas un bras de fer, c'est quelque chose qui se fait de manière très naturelle avec les porteurs de projet. Soit ils sont à un niveau de maturité suffisant, ils nous disent voilà, nous aujourd'hui on a besoin de tel ou tel accompagnement, telle, je dirais, prestation en quelque sorte, et on va fonctionner comme une entreprise et on va facturer. Ou bien on a des porteurs de projet qui sont peut-être un petit peu moins développés, qui ont aussi moins de moyens, et on va leur mettre à disposition tout notre savoir-faire, notre réseau d'experts, nos partenaires et nos équipes. Et donc il y a aussi beaucoup de temps qui est consacré sur ce projet. Et en retour, on va prendre de l'equity. Et pour revenir à ta question, évidemment, un retour d'investissement sur un modèle de studio, ça prend beaucoup de temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 ans, il faut au minimum 5 à 7 ans. Et donc, on est assez précis, enfin, on essaie d'être le plus précis possible dans le choix des startups que l'on va accompagner. Ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas, on s'est planté, hein, comme tout le monde.
Vous commencez déjà à avoir des retours donc, sur des startups ?
Non, c'est trop tôt. On est comme tu le disais là, en introduction, on a commencé en 2017. On a des startups qui commencent à avoir des valorisations intéressantes, mais avec lesquelles on est toujours engagé. Mmh. Et pour nous, le modèle, c'est de pouvoir sortir, mais c'est encore trop tôt pour envisager ce type de sortie. Il faut 5 à 7 ans.
Mais vous avez une idée à l'instant T avec la valorisation, quoi.
Voilà, exactement. Ça nous permet de voir un petit peu comment... En tout cas, tant que le cycle d'avancement de la startup est positif et tant que, évidemment, les fondateurs sont là, parce que ce qu'on disait, il y a aussi de l'abandon hein, de la part des fondateurs, nous, on est là, on est derrière, on essaie de structurer et d'avancer.
C'est quoi les critères donc, qu'est-ce que vous regardez en premier quand vous allez sélectionner, vous, des projets? C'est quoi un petit peu les axes principaux?
Alors, peut-être paradoxalement, c'est pas la technologie qu'on regarde en premier. C'est les porteurs de projet. C'est la vision qu'ils portent. C'est aussi leur personnalité, ce qu'ils incarnent en termes de valeur. Parce que, encore une fois, on n'est pas sur un programme avec une date d'entrée, une date de sortie de 6 mois. On est quasiment des cofondateurs. Et donc, il faut qu'il y ait aussi une alchimie qui fonctionne.
Des parrains, des mentors.
Mais même, je dirais presque des associés dans le projet. Et donc, il faut que ça fonctionne sur le plan humain. Et ça, c'est déterminant. Donc, l'équipe est extrêmement importante. Deuxièmement, l'adéquation entre le projet et la réalité, c'est là où je pense que notre vision métier est peut-être un élément un petit plus. C'est qu'on voit des très beaux projets avec souvent une approche purement tech, où on arrive avec des choses totalement révolutionnaires. Et nous, la question qu'on se pose tout de suite, c'est de se dire, OK, ça c'est super, mais comment on va l'implémenter ? Comment les utilisateurs vont pouvoir l'implémenter, que ce soit les utilisateurs des professions de santé ou bien les patients, comment ça peut être implémenté. Et là, on se rend compte qu'il y a souvent un gap énorme entre ce qu'on imagine comme étant une solution révolutionnaire dans le domaine de la santé et la réalité qui, en fait, est une réalité de terrain. Ouais. Et il faut impérativement que le besoin émane d'un besoin du terrain et donc du métier.
Et ça, je me permets de faire une petite pub pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode avec Aude Niadanou de chez L'Hôpital. Je vous invite à l'écouter. On parle vraiment de l'importance de trouver un besoin sur le terrain et comment on peut le faire. Et donc, je vous laisse aller l'écouter. Je te laisse reprendre. C'était l'instant pub.
Non, mais effectivement, il faut vraiment que... Je pense que vraiment cette innovation de service, innovation technologique, on le voit, c'est une innovation qui doit émaner du terrain, et des besoins. C'est vrai aussi pour l'industrie. On essaye aussi aujourd'hui de développer une offre d'accompagnement d'innovation pour des entreprises industrielles sur la filière de la santé et on essaie de répondre à des besoins précis de ces filières et de ne pas un petit peu partir sur la tech en pensant que ça va résoudre tous les problèmes, ce qui est une erreur. Okay. Donc Voilà, ça c'est un critère qui pour nous est très important. Après, il y a la scalabilité du projet, le business model, mais bon, ça je dirais que c'est des choses peut-être
Classique, ouais.
un petit peu plus classiques, effectivement.
Ok, très bien. Et en termes de chiffres, donc du coup, là, vous avez pris de l'equity dans combien de startups?
Alors aujourd'hui, on a 4 startups avec lesquelles on a de l'equity. On est une petite équipe. Hein, on y va tout doucement. Ça demande
Oui, de toute
aussi
façon, c'est pas un...
beaucoup de temps.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
Si vous voulez les
le
faire
modèle,
grossir, de toute façon, il faut...
voilà. On n'est pas du tout sur une logique de chiffres en termes de. On fait 100 startups par an. C'est pas du tout ça. On fait pas d'appel à candidature, par exemple.
Ouais.
Donc, on va pas aller faire une cohorte de 10-15 startups. C'est pas comme ça qu'on travaille. Donc, aujourd'hui, on a de l'equity sur 4 startups, avec, évidemment, on l'espère, pour les startups les plus anciennes, des perspectives sur encore les 2-3 prochaines années. Donc, il faut quand même avoir les reins un petit peu solides aujourd'hui pour les accompagner, mais pour
Donc,
répondre à 4 startups
s'il n'y a pas
aujourd'hui.
d'appel à candidature, donc ça veut dire que comment on fait pour entrer dans le Startup Studio?
C'est souvent soit, je dirais, le réseau, et comme on travaille avec un réseau de partenaires, on a parfois, tu le disais tout à l'heure, un incubateur, un accélérateur qui dit, voilà, moi, c'est pas mon métier, je sais pas faire, aller voir Factory parce que c'est plus leur domaine quand il s'agit de la des biotech ou de l'e-santé. Après, c'est aussi des porteurs de projets qui entendent parler de nous. On essaie d'être présent dans un certain nombre d'événements. Donc voilà, c'est la notoriété du studio qui nous permet aussi d'avoir des projets. Mais c'est vrai qu'on a une capacité d'accompagnement qui reste aujourd'hui relativement limitée. Ça fait partie de nos objectifs pour l'année 2021. C'est d'aller effectivement augmenter notre capacité d'accompagnement et donc notre capacité aussi en termes de financement.
Donc ça passe par quoi? Ça passe par augmenter la prestation de service pour pouvoir en retour proposer encore plus d'accompagnement pour d'autres startups?
Oui, alors c'est vrai que la prestation de service c'est important parce que
C'est
aujourd'hui c'est ce qui nous fait vivre.
gagne-pain,
Ouais, voilà, mais l'équilibre après, l'équilibre c'est qu'on n'a pas envie de faire que de la prestation de service parce que
ouais.
évidemment c'est un autre métier. Il y a aussi le rôle des bailleurs de fonds, des investisseurs qui est quelque chose aujourd'hui pour nous d'actualité. Là, on est sur ces questions. Comment ouvrir un petit peu le factory à des investisseurs, comment travailler avec des bailleurs de fonds publics, comment activer des leviers de financement, justement pour nous donner des moyens de mise à disposition de ressources et d'expertise, sans devenir une boîte de facturation qui va faire que du service, parce que c'est pas la philosophie de ce qu'on a envie de faire, tout simplement.
Non, ouais, c'est clair, c'est une toute autre approche. Et donc là, c'est
Voilà.
quoi vos challenges principaux, du coup, pour résumer, en 2019-2020, on va dire?
Challenge pour les années à venir.
Bah, du coup, oui, plutôt pour le futur.
Ouais. Pour le futur, je pense que la question du financement, du modèle économique du studio est au cœur des débats. Ça, c'est clair. On a aussi envie, parce qu'on est dans cette logique d'internationalisation, et que Tunis a été une aventure absolument extraordinaire. On a aussi envie de pourquoi pas ouvrir une nouvelle implantation de factory sur l'international, que ce soit peut-être en Europe ou en Afrique subsaharienne. On est un petit peu en train de réfléchir à tout ça. Déjà, c'est deux gros enjeux, mais la priorité aujourd'hui, c'est de vraiment avoir les moyens de se développer. Et encore une fois, il y a un axe qui nous tient à cœur, c'est ce travail, cette collaboration et qu'on peut mettre en place avec les grandes entreprises et les grands groupes de la filière. Et je pense qu'il y a vraiment une proposition de valeur intéressante à construire avec eux, ce qu'on a jusqu'à présent, on n'a pas fait parce qu'on était vraiment focus sur les startups. Mais c'est vraiment d'arriver à répondre à des problématiques précises, mettre à disposition un programme structuré d'accompagnement pour créer des entreprises qui répondent à des problématiques. Et ça revient aussi à cette notion de répondre à des enjeux du terrain, quoi, voilà, des filières.
Ok, très bien. Bah, écoute, je pense qu'on a compris un peu où tu te situes actuellement et ce que tu avais fait. D'un point de vue un peu plus entrepreneurial, qu'est-ce que
Oui.
tu donnerais comme conseil, toi, vu que maintenant ça fait un moment donc, que tu es passé de la médecine à l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a fait comme toi donc des études médicales, qui a un background dans la santé et qui veut entreprendre?
Oui,
C'est
c'est
large
une
comme
vaste.
question, c'est très large,
Ouais.
mais.
Non, mais bah, je crois que bon, on y a en partie répondu, mais je pense que vraiment, on n'entreprend pas dans la santé comme on entreprend dans un autre secteur de la tech. Je pense qu'il y a. Alors, pour quelqu'un qui a ce bagage médical, scientifique, qui souhaite entreprendre, il faut créer une équipe. Il faut s'adosser, travailler avec des gens qui ont cette connaissance, soit de la tech, soit du biz dev. Enfin, voilà, il y a un équilibre à trouver. Je pense que avoir ce bagage médical, c'est très important quand on veut se lancer dans cette filière. Mais il faut créer une équipe et une bonne team au départ. Ça,
Ouais,
c'est vraiment
c'est ton
fondamental. Et
conseil.
trouver un juste équilibre. Et puis après, repartir de réalité de terrain. Ça, c'est fondamental. Ne pas penser que la technologie aujourd'hui répond à toutes les problématiques. C'est pas vrai. Je pense que ça, c'est une des erreurs qu'on fait souvent, c'est de se dire, voilà, j'ai une solution technologique, je fais de l'IA, je fais plein de choses, la réalité virtuelle, etc. Mais en fait, c'est très compliqué d'implémenter. Donc, il faut vraiment être bien les pieds sur terre, quoi.
Ok, top. Et si tu devais nous partager ta plus belle réussite, un moment qui a marqué ton aventure?
Ben, écoute, les plus belles réussites, on a des victoires, des petites victoires du quotidien. Hier, on avait une de nos startups accompagnées qui était en train de présenter son dispositif, qui travaille sur un dispositif d'IA dans l'aide au diagnostic et la détection des pleurs chez l'enfant, et qui était en train de pitcher devant un parterre d'investisseurs. Ça, c'est une petite victoire, voilà, du quotidien, parce que ça fait un certain temps qu'on les accompagne. Et puis après, les victoires, elles restent à construire. C'est clair que notre ambition, c'est vraiment être en mesure de faire sortir, de contribuer à l'éclosion de pépites dans le secteur de la santé numérique et des biotech. Et ça, ce sera, je pense, le Graal une fois
Super.
qu'on aura atteint cet objectif, quoi.
OK. Top. Est-ce que tu as une ressource, un livre, je sais pas, un podcast, pourquoi pas, à nous partager qui, toi,
Ah bah les
t'a permis.
les tiens.
Top.
Non,
Bon, bah,
non
nickel.
mais c'est vrai que j'ai écouté pas mal de tes podcasts. C'est super intéressant d'avoir des points de vue et des expériences différentes. Il y a la Bible, c'était le livre de le Lean Startup
Ouais.
qui a été pour moi aussi assez structurant, même si je pense qu'il faut pas appliquer
Non,
tout à
faut
la
pas non
lettre et
plus
c'est
tout
pas
le suivre.
voilà
Et
c'est
puis il est
pas
assez vieux,
mais
donc.
ouais bon c'est un peu mais c'est plus la philosophie qui est intéressante voilà et puis il y a plein de choses mais
Ça marche. Bah écoute.
il faut écouter tes podcasts.
Top. Bah écoute, Eddy, c'était super. Je pense que tu as vraiment donné pas mal de conseils et je pense que ça va être assez inspirant pour des personnes qui cherchent à se lancer et pourquoi pas à créer des structures comme la tienne.
Écoute, j'espère.
Je te souhaite beaucoup de succès. Et puis,
Merci Jean-Baptiste, merci.
bah, écoute, si vous cherchez à contacter Eddy, vous aurez tous les liens dans la description. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode. Et je vous retrouve pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.